Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, bienvenue sur CNews, 90 minutes info débute juste après. Un rappel des titres, il est signé Somaïa Labidi aujourd'hui. Bonjour Somaïa.
Les suites de l'affaire du fonds Marianne, le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco, a conclu la commission d'enquête du Sénat. Pour le rapporteur, certaines des associations ayant bénéficié du fonds ont effectué un vrai travail, je cite, mais ce n'est pas le cas des deux principales d'entre elles. Ukraine, 4 morts à Lviv dans une attaque contre un immeuble résidentiel. Il y aura assurément une réponse à l'ennemi, une réponse tangible, a assuré Volodymyr Zelensky. Selon le ministère de l'Intérieur, c'est un missile russe qui est à l'origine du drame. Les opérations de secours se poursuivent et les débris continuent d'être déblayés. Et puis le PSG poursuit son mercato. Après avoir présenté son nouvel entraîneur, Luis Enrique, hier, le club parisien annonce deux nouvelles recrues. Le défenseur central slovaque, Milan Skriniar, et l'ailier espagnol Marco Asensio font désormais partie de l'équipe.
Allez, c'est parti pour le programme du jour. Avec cette question, la majorité des émeutiers interpellés sont français, mais la question de l'impact de l'immigration revient dans le débat. Alors, français convaincus ou de papier ?
La question, elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir si le type, il est français ou pas français. Sur les 90% autres, il y en a combien qui sont d'origine immigrée ? Moi, je me fiche de savoir si quelqu'un est français ou pas français. La seule question, c'est oui ou non, il aime la France. Oui ou non, il se sent français.
Quant aux commerçants, ils continuent d'être désemparés, y compris passé le choc de la découverte du saccage.
Effectivement, je ne vous cache pas qu'il y a eu un grand moment de solitude. Et j'ai vraiment attendu le petit matin avec impatience.
On est dans une impasse, aujourd'hui on ne peut pas ouvrir. Mes employés sont au chômage partiel. On ne peut rien faire parce que tout est cassé, il n'y a plus rien, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de fonds pour réparer, pour remplir le magasin.
Enfin, les prises records de mortiers d'artifice interrogent sur leur libre circulation alors qu'une loi restreint en principe leur accessibilité.
Saisi d'une tonne 5, c'est un peu comme les stupéfiants. On parle de ce qui est saisi, mais pas de ce qui est rentré. C'est-à-dire que là, la masse de mortier qui est rentrée depuis la fin des émeutes, parce que c'est à partir de là où les commandes ont été faites, ça doit être quelque chose qu'on peut multiplier par 3 ou par 4 facilement.
Voici les thèmes que nous aborderons ensemble. Et pour m'épauler dans cette tâche, j'accueille sur ce plateau Joseph Touvenel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social, dont voici le tout dernier numéro, et avec une assez prometteuse qui donne envie de rêver. La France, puissance maritime.
Parce que on l'ignore trop souvent, la France, en surface, est la première puissance maritime au monde. Nous sommes passés il y a quelques mois devant les États-Unis. Maintenant, la question, qu'en fait-on ? Alors qu'on peut se dire que l'avenir, c'est avoir de l'espace, des possibilités de développement. Alors on fait un état des lieux, parce qu'on a encore des savoir-faire, on a des savoir-être, des marins qui sont très très bons, que ce soit des marins, la marine nationale, ou que ce soit des marins dans le civil, et peut-être qu'on peut s'appuyer là-dessus pour un développement qui nous sortirait un peu de la
réponse,
naze.
La réponse dans ce numéro, merci à vous de nous l'avoir ramené. Bonjour Charles Zitzenstuhl, vous êtes
Nelly.
Député Renaissance du Bas-Rhin, merci également d'être là. Bonjour Karim Zeribi.
Bonjour Nelly.
Merci.
Je suis pas insensible à cette une, moi le Marseillais. Ville portuaire.
Ah bah oui, forcément. Vous voulez qu'on fasse le débat sur ça ?
On peut. Hein,
ça va nous apaiser un petit peu,
parce
que c'est le maître mot, l'apaisement, en ce moment. Et bonjour, Gauthier Lebray.
Hello,
un petit peu
je suis retour, mais je ne vous relancerai pas sur la une.
D'accord, c'est gentil. Mais on est un petit peu coordonnés. C'est bien d'avoir fait l'effort de la petite touche de couleur. On va parler de ces 10% de personnes interpellées lors des émeutes qui sont étrangères et qui sont donc éligibles au centre de rétention administrative. Mais alors, cette question, est-il possible de les expulser pour celles qui sont sous OQTF et expulsables ? Quelles sont les conditions, les difficultés aussi auxquelles on se heurte ? Voyons cela résumé par Vincent Farandège et Mathilde Ibanez dans ce reportage.
Les mesures d'expulsion hors du territoire français des personnes étrangères sont soumises à des conditions précises.
sont concernés. Les étrangers vivant en France de manière irrégulière, qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Ceux qui se trouvent légalement sur le territoire peuvent aussi être expulsés théoriquement.
Si l'étranger est en France avant l'âge de 13 ans, s'il y est depuis 10 ans, s'il est marié avec un conjoint français, enfin il y a des conditions qui font qu'il est protégé. Et donc il faut qu'il y ait vraiment une menace pour l'ordre public pour pouvoir l'expulser.
Selon Georges Fenech, avoir participé à ces émeutes peut être un motif valable, mais là aussi certaines difficultés apparaissent.
Ensuite, vous avez la question de l'effectivité d'expulsion. Il faut obtenir un laissez-passer consulaire. Il faut peut-être trouver aussi une place en rétention administrative. Vous savez qu'il nous en manque. Donc c'est toujours la même difficulté de mettre à exécution les décisions d'expulsion.
En plus de vouloir expulser les étrangers ayant participé aux émeutes, les Républicains souhaitent restreindre le droit du sol. Quant au Rassemblement national, ils désirent le supprimer.
Alors Gauthier, je vais commencer avec vous. Donc les conditions d'expulsion seront pour certains, en tout cas les majeurs réunis, ça ne change pas le ratio. On rappelle, c'est 10, 90, c'est ce que je vous disais en préambule de l'émission, lors du sommaire. La réflexion semble ailleurs aujourd'hui sur le fait de se revendiquer français ou pas. Et au fond, c'est Gérald Darmanin qui a un petit peu lancé les hostilités, sans trop le savoir, avec ce qu'il a dit hier en commission sur les prénoms qui pouvaient émaner de ces interpellations, des Kevin, des Mathéo, ça a été largement commenté.
En fait, il y a deux débats là. Il y a d'abord ceux qui sont étrangers, qui représentent 10% des gardés à vue et que les Républicains et le Rassemblement national aimeraient expulser. On rappelle que quand vous êtes sous obligation de quitter le territoire, vous n'êtes pas du tout certain même d'être expulsé, donc expulser ces 10%. Quand on n'est pas capable d'expulser les personnes sous obligation de quitter le territoire, on parlera un peu plus tard dans l'émission de Robert Ménard qui va devoir marier une personne sous OQTF. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis qu'on atteigne le chiffre de 100% des obligations de quitter le territoire français. On est à 10%. Il y a quelques semaines, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, avait dit que c'est impossible d'atteindre les 100%, oubliant certainement que c'était le président de la République lui-même qui l'avait promis. Ensuite, il y a un deuxième débat sur les Français, 90%. Des arrestations, enfin des gardés à vue, 90% sont français. Et après, il y a un débat entre la droite de la droite et le gouvernement, parce que à droite, on commence à remettre en question leur nationalité française, avec cette fameuse expression « français de papier ». Jacqueline Eustache-Brinio, hier, a parlé à Gérald Darmanin lors de son audition au Sénat, elle lui a posé la question « ils sont comment français ?». Et là, si vous voulez, il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que, par exemple, les jeunes LR, sur la question des expulsions, ils viennent de fournir un tract, la prison et l'avion, mais qui a supprimé la double peine. Et donc après, il y a effectivement cette course à l'échalote dans la radicalité, puisque Bruno Retailleau a même choqué des membres du Rassemblement national en off hier en parlant de régression vers les origines ethniques. Et scandale aussi à gauche et à l'extrême gauche avec la France insoumise. Mais Mathilde Panot, il y a deux jours, elle parlait en conférence de presse, je cite, de jeunes arabes. Donc vous voyez qu'il y a un espèce de mélange des genres, là. Il y a une grande confusion de tous les côtés de l'échiquier politique.
Alors je vous propose d'écouter Robert Ménard, qui était notre invité ce matin, qui nous dit en substance, le principal, c'est de se sentir français. Et on en débat ensuite.
La question, elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir si le type, il est français ou pas français. Sur les 90% autres, il y en a combien qui sont d'origine immigrée? C'est aussi la question.
Il dit qu'il y avait des Kevin,
mais bien
des
sûr qu'il y en a. Mais il a raison s'il dit que ça ne se réduit pas à une question d'immigration. Mais c'est beaucoup une question d'immigration. Moi, je me fiche de savoir si quelqu'un est français ou pas français. La seule question, c'est oui ou non, il aime la France. Oui ou non, il se sent français. C'est parce que moi, je vois des gens qui ont évidemment... sont français depuis trois générations, donc c'est pas le problème, et qui se sentent pas français. Soit à 90%, il a raison, français. Mais le problème, c'est est-ce que quand tu cries « nique la France », ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si t'as ton passeport français, t'es vraiment un français de cœur ou un français de papier. C'est juste ça. Et il faut pas jouer sur les mots.
Karim, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est l'insulte qui crée le sécessionnisme de l'identité française?
Moi, j'aimerais savoir à quoi sert ce débat. En fait, j'ai envie de dire, j'ai le sentiment que on manque d'exigence sémantique dans le débat français. Quand Gauthier Lebret nous dit que Mathilde Panot dit en parlant de Naël, jeune arabe. Naël, il est français. Je veux dire, et si on prend ses origines, il est d'origine maghrébine. Donc, il n'est pas d'Arabie Saoudite. Enfin, je veux dire, on est dans une forme de légèreté, je dirais d'imprécision, d'approximation, et on renvoie tous nos débats à la question ethnique, au déterminisme ethnique. Excusez-moi, on a un problème franco-français. On va le comprendre, ça ? Avec ces 90%, il va falloir qu'on le traite. Parce que si on parle des origines pour Mohamed ou Farid, qui est français, on va en parler pour Matteo, qui est d'origine italienne. On va faire pareil. On ne va pas s'en sortir. On ouvre une boîte de Pandore qui va nous emmener où ? Et puis des Mohamed et des Karim dans la police, il y en a. Ils sont issus d'immigration. Alors ceux-là, on ne va pas effectivement aller sur l'origine. Il y en a qui sont dans l'armée française, il y en a qui portent les couleurs de la France, haut et fièrement. Donc arrêtons, traitons le problème. Il y en a qui n'aiment pas la France, qui ne se sentent pas français. C'est notre problème. C'est un problème éducatif, c'est un problème de justice, c'est un problème d'éducation. Je veux dire, il faut qu'on y réponde pour pas que ça se reproduise avec les générations qui arrivent. C'est ça le devoir que l'on a et le défi qu'on a face à nous. Mais rentrer dans ce débat sémantique, de surenchère, des origines, où on va trier les Français en fonction de leur origine, mais où va-t-on ?
Charles Gisèle, est-ce qu'on se trompe de débat et est-ce que quand même ça peut pas poser les bases pour certains d'une réflexion sur l'avenir de la politique migratoire ? C'est ça aussi que disent certains politiques.
Troisième génération, qu'est-ce que ça a lié avec la politique migratoire ?
Est-ce que vous faites une corrélation ou est-ce que vous dites comme Karim Zeribi, le problème est ailleurs et il ne faut pas se tromper de problème ?
Je pense qu'il y a une grande confusion. Si ce débat-là, il est si prégnant depuis quelques jours, c'est qu'il y a bien une difficulté dans notre pays autour de ce sujet où effectivement, ce n'est pas toujours très, très clair de faire le distinguo entre nationalité, immigration, différentes générations. Et là-dedans, il faut ramener de la raison et il faut ramener des faits objectifs. Et dans ce sens-là, moi, je suis assez d'accord avec Karim Zeribi. Ce que Gérald Darmanin a dit hier, c'est quelque chose de factuel, qui est que vous avez 10% dans les interpellés, 10% de personnes qui n'ont pas la nationalité française, ce sont donc des étrangers, et que 90% sont, de façon tout à fait objective, de nationalité française, ils sont donc français. Je pense que le débat prend aussi cette tournure parce que beaucoup de nos compatriotes ont vu à travers les écrans de télévision ou les réseaux sociaux, lors de ces émeutes et des manifestations, des drapeaux français brûlés, des tags anti-français, des paroles anti-françaises, des drapeaux de puissances étrangères, notamment venant d'Afrique du Nord, brandis, des slogans religieux
français,
parfois.
Drapeaux français brûlés, hein.
Oui, je l'ai dit. Des drapeaux français brûlés, des slogans religieux islamistes scandés. Et donc ces images-là, ces sons-là, ont choqué beaucoup de personnes. Et ça aussi, il faut pouvoir en débattre.
Joseph Tovenel, ce que disent certains élus, certains à droite, évidemment, c'est que, d'une certaine manière, assister à cela, c'est voir une forme d'échec de l'assimilation. C'est là-dessus, en fait, qu'ils s'interrogent. Qu'on sache réellement
forme,
où ça a échoué. À qui en incombe la responsabilité aussi.
On n'ouvre pas la boîte de Pandore. Elle est ouverte. Elle est ouverte pour des tas de raisons. Elle est ouverte notamment parce qu'on a toléré depuis des décennies que des gens sur le territoire français disent « moi je suis pas français, je hais la France ». Et on a laissé faire. Rappelez-vous les matchs de foot avec l'équipe d'Algérie qui est applaudie et l'équipe de France qui est sifflée. Moi je pense qu'il fallait applaudir les deux. Et ça c'est pas nouveau. Ce que dit Robert Ménard, il a raison, quand il dit le principal c'est d'aimer son pays. Mais la nationalité, ce n'est pas que ça. Une nationalité, ce sont des droits et des devoirs. Il ne s'agit pas que de dire « j'aime ». Il ne s'agit pas que de dire « moi j'aime beaucoup l'Irlande par exemple, mais je ne suis pas irlandais ». Et d'ailleurs, le jour où il y a un conflit, quand on nous demande de risquer notre vie, c'est bien la nationalité qui va jouer. Et pour des tas d'autres raisons. Donc on ne peut pas dire « ce n'est que sur le papier ». Non, non, la nationalité est importante. Et ce qui est dramatique, c'est tous ces jeunes. Alors quand on nous dit 10% d'étrangers, oui, dans les autres, il y en a combien qui ont la double nationalité et qui n'ont pas encore fait leur choix ?
Je ne crois pas qu'on ait fait le...
Ça, on ne l'a pas dit.
À ce point-là.
C'est pour ça que la communication du ministre, au moins qu'ils disent la vérité en disant qu'il y a beaucoup de jeunes et très majoritairement qui sont issus de l'immigration et c'est un problème. Si je commence à dire non, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont à 90% français, ça s'appelle mais mentir.
On va dire issus de l'immigration jusqu'à quand ? Je vous pose une question. Moi, je suis quatrième génération.
Oui, je vais vous dire.
Mes enfants, cinquième génération.
Je vais vous dire.
Mes parents sont d'origine algérienne.
Je vais vous dire jusqu'à
quand.
Jusqu'à quand. Jusqu'à ce que l'INSEE arrête de faire les statistiques sur les enfants de la première et de la deuxième génération.
C'est pas l'INSEE qui dicte les discours des politiques, excusez-moi.
Non, mais je dis ça parce qu'on nous dit, mais c'est pas possible. Pourtant, ce sont les statistiques faites par l'INSEE.
Mais alors.
Pourquoi l'INSEE fait ces statistiques ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Et que pour voir la masse des problèmes, on est obligé de faire les statistiques.
Mais vous assumez
qu'on est en train de créer des Français de seconde
catégorie. Ça permet de voir des masses.
On a des quartiers où on a 70 à 80% de Français, dans ces quartiers dits sensibles. Parmi ces 80% de Français, il y en a une frange minoritaire, activiste, délinquante, qui n'aime pas la France, qui le dit haut et fort. On a une immense majorité qui respecte les lois de notre pays, qui travaille, qui sait trouver sa place, avec difficulté. Parce que la vie n'est pas toujours facile dans ces quartiers, mais ils ne se plaignent pas, ils ne font pas preuve de victimisation, ils ne rentrent pas dans une culture de l'excuse. Qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, on essaie de rattraper ceux qui dérivent et qui dérapent, qui font partie de la communauté nationale. Donc, elle est là, ils sont là, je veux dire, où on essaie de trouver des subterfuges politiques, des fonds de commerce pour expliquer, oui, mais ils ne sont pas vraiment français, mais ils sont si, mais ils sont... Moi, je veux qu'on trouve des solutions. Je veux dire, si ces gens-là, ces jeunes-là, ne se sentent pas français, il faut qu'à un moment donné, on aille comprendre pourquoi. Et c'est pas en ne les considérant pas comme des Français qu'ils se sentiront encore plus français.
Alors justement, je vous propose de regarder ce que disait Emmanuel Macron. On va le commenter ensemble, Gauthier. Emmanuel Macron, qui à propos de ces jeunes, dit « Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation. On va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, la concorde. Et ensuite, c'est de travailler sur les causes profondes. Est-ce que c'est un aveu, un message un peu cryptique ? Quelles sont les causes pour le président, Gauthier ?
Ben, il ne sait pas. Puisqu'il cherche à comprendre, c'est ce qu'a dit la présidence de la
République. On se sent démunis en fait à travers ça.
Exactement, il gagne du temps au fond, il gagne du temps parce que la réponse sécuritaire elle a existé, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés pendant plusieurs jours. Il y a aussi eu l'aide des dealers, il faut le dire. Les dealers, de plus en plus de sources policières nous l'affirment, les dealers ont aidé au retour au calme parce qu'on sait que pour le trafic, pour le business, c'est pas bon quand évidemment il y a des émeutes. Mais pour revenir sur le débat...
Certains peuvent faire preuve d'autorité.
Voilà. Les dealers, oui, c'est ça. L'autorité, les dealers ont la main parfois sur une partie de ces quartiers. Mais pour abonder dans le sens de Karim, je prendrai deux exemples. Déjà, Jean-Luc Mélenchon. Quand on voit qu'il décroche dans les sondages, c'est parce qu'il s'est trompé. Il a amalgamé en fait, les habitants de Nanterre. Quand il fait 50% quasiment au premier tour à Nanterre et qu'il se dit « il faut que je récupère politiquement les émeutiers », on voit bien, ces députés sont même allés sur le terrain pour les récupérer politiquement. Ils se sont fait agresser par ces émeutiers. Et quand on le voit décrocher dans les sondages, tout en bas de notre classement OpinionWay, loin derrière Marine Le Pen, quasiment à la dernière place, qu'il a cru que, parce qu'il avait fait 50% à Nanterre, les habitants de Nanterre soutiendraient les émeutiers. Mais les habitants de Nanterre, ils ne soutiennent pas les émeutiers, ils les subissent. Et quand Emmanuel Macron va à Marseille, de quoi on lui parle dans les quartiers nord ? De quoi on lui parle pendant des heures et des heures ? On lui parle de sécurité. Donc c'est bien la preuve qu'il faut arrêter de penser que les habitants des quartiers, il faut arrêter de les amalgamer avec les émeutiers. Ils les subissent en première ligne, oui, en premier spectateur.
Il fait du clientélisme et de l'électoralisme un peu primaire. OpinionWay pour CNews, c'est le sondage auquel vous faites référence. La parole politique est-elle utilisée à bon escient ? Pas vraiment, hein, quand on regarde le résultat. Il n'y en a qu'une qui tire, et encore à peu près son épingle du jeu. Tant sa parole aussi s'est faite rare. Jusqu'à ce matin, d'ailleurs, on a omis de l'écouter, mais Marine Le Pen qui s'exprime.
Elle a posé une question aussi à la Sénat.
41%, et elle a posé une question au QAG, en effet. 41% approuve le discours qu'elle a pu tenir ces derniers jours. Lorsque, à l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un Jean-Luc Mélenchon, là, il n'est plus crédité que de... 19, on ne le voit pas là sur carton, mais c'est 19%. Pour Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est elle qui tire le mieux son épingle du jeu. Écoutons comment elle situe aussi Marine Le Pen, LFI, dans le champ politique. Elle n'est pas la première à le dire. Je crois que c'est Elisabeth Borne qui peut ou prou utiliser la même expression hier. Écoutons.
Évidemment.
Mais pourquoi ?
Mais tout le monde le fait. Il y a un problème d'immigration dans notre pays depuis 40 ans. Nous avons subi une immigration totalement anarchique. Cette immigration, elle a entraîné un communautarisme et elle entraîne dans l'esprit d'un certain nombre de personnes une forme de sécession avec la société française.
Donc quand Gérald Darmanin
et les émeutes
dit qu'il y a
de 5 jours que nous venons de vivre,
ils ne voient pas la réalité.
Ce seront des dizaines de jours que nous subirons demain. Il faut regarder la réalité en face. Calmement, alors, simplement. La France insoumise a choisi de rompre avec la République. Mise en cause de la police, comportement inadmissible au sein de l'Assemblée, élus qui jouent avec des ballons, avec le visage de ministre, et j'en passe, et des meilleurs. Incitation aux violences, car ce qui a été fait par des élus de la France insoumise, c'était une incitation en réalité à ces violences. Je pense qu'ils auront une responsabilité devant l'histoire du fait de ce comportement.
Voilà, ils ne sont plus dans le champ politique. Charles Eisenstuhl, vous êtes d'accord avec elle. On peut s'interroger sur leur volonté profonde, parce que Ils savent très bien, ils savent pertinemment que sur le plan électoral, ça ne va pas les porter, loin de là. Donc est-ce qu'on peut s'interroger sur leurs envies insurrectionnelles?
Mais nous, la majorité présidentielle, ça fait plus d'un an que nous ne cessons d'alerter sur la France insoumise. Moi, je me souviens de la campagne des législatives que nous avons vécue il y a un an. J'étais candidat, j'ai eu la chance d'être élu. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Je me souviens de propos qui étaient assez durs, mais en fait très justes, rétrospectivement, de Gabriel Attal, notamment, durant cette campagne. Ça fait plus d'un an que nous alertons sur la France insoumise et qu'une partie de la gauche n'a pas voulu voir venir le problème des mélenchonistes pour des raisons de combinaison politique, qu'une partie de l'opposition, et notamment celle qui vient de s'exprimer maintenant, a été bien silencieuse vis-à-vis de la France insoumise pendant les premiers mois de la législature. Je rappelle quand même que Mme Le Pen et M. Mélenchon se tenaient la main, notamment lors du débat de la réforme des retraites, et votaient ensemble des motions de censure. Donc aujourd'hui, elle a beau jeu, Marine Le Pen, de se désolidariser des insoumis.
Voter ensemble, enfin, je crois que LFI n'a pas voté de motion de censure.
C'est à géométrie.
Rien voté que présenter le Rassemblement
national. Les frontistes et les lepénistes.
Ils ont voté la censure Liotte ensemble.
Ouais, les frontistes et les lepénistes.
C'est la seule qui était transpartisane.
Les frontistes et les lepénistes savent se retrouver avec les mélenchonistes quand il s'agit de déstabiliser notamment le gouvernement. Donc les leçons de Marine Le Pen, franchement, elle peut se les garder. Et bien entendu, aujourd'hui, la France insoumise est un danger pour la stabilité démocratique de nos pays. C'est une évidence.
Ce sont des révolutionnaires?
Oui, mais c'est l'extrême-gauche. Personne n'a attendu la majorité présidentielle pour constater que l'extrême-gauche pouvait être dangereuse, parce que l'extrême-gauche, c'était la violence, parce que l'extrême-gauche, souvent, quand elle le peut, s'assied sur les lois de la République. C'est dans toute notre histoire. Moi, ce que je regrette, quand Marine Le Pen dit des choses sensées, qu'on dise « on est d'accord ». Tant qu'on sera dans ce jeu politique, où on se renverra, parce que là, ce qu'elle dit, c'est parfaitement sensé. Ben, je ne suis pas forcément le pénis, mais c'est du bon sens ce qu'elle dit. Si on ne peut pas se rassembler sur ce dont on est d'accord, comment on va avancer? Alors, le jeu politique, je sais bien, quand il y a des élections, chacun se présente, on est le plus beau, mais là, quand même...
C'est un peu la situation à laquelle on a été confronté lors de la réforme
des retraites. Et ça, c'est assez rassurant. On constate que la très, 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 très grande majorité du peuple français dit la même chose. C'est-à-dire que ces gens sont dangereux.
Alors, on va s'interrompre quelques secondes, Karim, mais on va rester sur tout cela. On va parler aussi du policier, hein, le policier dont l'avocat avait demandé la remise en liberté provisoire. Cette demande a été refusée. C'est Noémie Schulz qui nous expliquera pourquoi dans un instant. Tout de suite. Nous sommes de retour dans 90 minutes info, mais nous allons prendre, avant de commencer le débat avec nos invités, des nouvelles de l'actualité en compagnie de Barbara Durand aujourd'hui. Bonjour Barbara.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Dans l'actualité, ce jeudi à 16h, la commission d'enquête du Sénat a rendu ses conclusions sur le dossier du fonds Marianne contre le séparatisme qui met en difficulté Marlène Schiappa. On va tout de suite prendre la direction du terrain et retrouver sur place Anne-Isabelle Tollé. Anne-Isabelle Tollé, bonjour. Ces conclusions sont extrêmement sévères.
En effet, Barbara, les conclusions très attendues de la mission d'information du Fonds Marianne sont sans appel et accablantes pour la ministre Marlène Schiappa. Le président de la Commission des Finances au Sénat, Claude Raynal, et son rapporteur n'ont pas mâché leurs mots en parlant de coup politique, de désinvolture, de manque de rigueur et même de fiasco. Lors de son audition le 14 juin dernier, la ministre déléguée à la citoyenneté, qui disait ne pas se défausser ni se dérober, n'a donc pas convaincu les sénateurs qui lui ont reproché beaucoup de pertes de mémoire, ne voulant pas répondre aux questions, ce qui est consternant et affligeant selon le rapporteur. Les conclusions de cette enquête n'honorent donc pas, selon les sénateurs, la promesse de lutter contre le radicalisme et le séparatisme au lendemain de l'attentat contre Samuel Paty, puisque sur les 2,5 millions d'euros alloués au fonds Marianne, eh bien seulement 1,4 million ont véritablement été dédiés à cette mission.
Merci beaucoup Anne-Isabelle pour toutes ces précisions. La première ministre était ce matin en visite dans le quartier d'Hauteville à Lisieux, c'est en Normandie. Un quartier durement touché par les violences urbaines ces derniers jours. Elisabeth Borne a rencontré les habitants, les forces de l'ordre, les commerçants qu'elle a tenté de rassurer. Retour sur cette visite avec Michael Dos Santos.
À Lisieux, beaucoup d'habitants sont encore sous le choc après les émeutes.
On aurait cru une guerre civile.
Certains d'entre eux craignent même que le scénario ne se répète dès la semaine prochaine.
Nous, on a peur de l'histoire du 14 juillet. On a peur qu'il recommence ça.
Ici, les émeutes du week-end dernier ont laissé des traces. Ce bar-tabac est totalement calciné. Face aux buralistes désemparés, Elisabeth Borne leur assure avec les mesures prises pour aider les commerçants.
Vous avez une assurance hein?
Bah oui, après on attend. On attend.
On leur a demandé d'être bienveillant sur les délais, de réduire les franchises, de se dépêcher pour les remboursements.
Lors de cette visite, la Première ministre a promis une réponse pénale ferme, rapide et systématique. Une justice face à laquelle les mineurs émeutiers se retrouvent, selon elle, trop souvent esselés.
Nos parents, ils sont obligés d'être là. Il y a la moitié des parents qui ne sont pas venus.
Elisabeth Borne a également condamné tous les raccourcis à propos des habitants des quartiers. Seule une infime partie d'entre eux ont participé aux émeutes.
Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Dans la nuit de jeudi à vendredi, qui est celle où on a connu le plus de violences, il y a 7 à 8 000 personnes qui ont commis ces violences.
Des émeutes loin de se cantonner aux quartiers. Selon la Première ministre, un tiers des communes touchées en sont dépourvues.
Et tout de suite du sport avec du rugby et les ambitions du joueur de l'équipe de France, François Cross, à seulement 2 mois du mondial.
Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
François Cross ne connaît que trop bien cette délicate équation. Faire corps avec le groupe tout en gérant l'incertitude autour de son cas personnel. 42 joueurs au début de la préparation, 33 seulement retenus dans la liste du 21 août. D'ici là, au sein du 15 de France, il y aura donc du travail, mais aussi une certaine anxiété. La crainte de faire partie des 9 déçus, comme le 3e ligne il y a 4 ans.
J'ai raté la dernière Coupe du Monde. Forcément, je m'étais mis un objectif, celle de 2023, qui est en plus ici chez nous. Donc c'est forcément un objectif qui est fort et important pour moi.
Un esprit de revanche qui a porté ses fruits. Du haut de ses 29 ans et de ses 20 sélections au compteur, le 3e ligne a vu son statut évoluer en même temps que celui d'un 15 de France qui figure aujourd'hui parmi les favoris pour le sacre final.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la progression qu'il y a eu au niveau du groupe. C'est vrai qu'on est parti en 2019 avec un groupe quasiment nouveau et on a vraiment une évolution qui est positive. Et c'est pour ça que la Coupe du Monde, ce sera, je l'espère, l'apothéose pour notre groupe.
4 ans que le Toulousain a fait de cette Coupe du Monde une obsession. Y participer penserait peut-être les plaies du passé. Le meilleur remède reste assurément de la remporter.
Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 16h. À vous Nelly pour la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup Barbara Durand et à demain pour un nouveau point sur l'info. Nous étions en train, avec nos invités juste avant la pause, de parler de LFI en s'interrogeant sur le fait que cette formation politique sorte ou pas du champ républicain. Et c'est vrai que de fait, beaucoup de formation de la NUPES qui appartiennent à cette coalition politique aujourd'hui commencent à prendre leur distance, c'est le moins qu'on puisse dire. Karim Zeribi, LFI va-t-elle trop loin dans les outrances verbales de certains de ses dirigeants aujourd'hui?
Moi j'ai une conviction, c'est que l'immense majorité de nos compatriotes, quelle que soit leur sensibilité politique, veulent que la classe politique porte une exigence républicaine dans le débat public. Une exigence républicaine à tous les niveaux. Quand on dit la police tue, quand on essentialise les forces de l'ordre, telle une force négative pour le pays, nos compatriotes ne sont pas dupes. Nous avons besoin de la police, des forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie. Et ils sont le rempart à bien des choses et des maux MAX de la société. Et donc, s'ils sont conscients qu'il peut y avoir des brebis galeuses et des racistes dans la police, évidemment, la police pour autant n'est pas raciste et elle ne tue pas. Elle nous protège et elle sert le pays. Et ce sujet, je pourrais le décliner sur tous les points. La responsabilité des parents. Les Français attendent des politiques qui parlent de la responsabilité parentale, tout en tenant compte, pourquoi pas.
On en parle, on a fait que ça hier et avant-hier, oui, y compris oui, sur oui, la réponse oui, à apporter.
Est-ce que vous entendez la LFI en parler? Vous me parlez de LFI, du désamour aujourd'hui et quelque part de la perte de vitesse de ce parti. Je pense que l'exigence républicaine qui consiste à remettre la question de l'autorité, la question de l'éducation, de la responsabilité parentale, du travail, la question des droits et des devoirs indissociables. La République, ça n'est pas un régime de faiblesse. Et les Français, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, veulent des discours de responsabilité. Et LFI donne le sentiment qu'ils sont dans un discours qui est le discours du chaos, qui est le discours, j'ai envie de dire, de l'insurrection. Oui. Mais les Français n'en veulent pas de l'insurrection. Et les habitants des quartiers, de surcroît, parce qu'ils vivent tous les jours des phénomènes d'insécurité. Et ils sont conscients que la police est nécessaire, que l'éducation est nécessaire, que le travail est quelque chose de structurant, que la famille doit être au premier rang de nos préoccupations. Tous ces sujets-là, la LFI ne les traite pas, Nelly.
Eh ben on verra la réponse dans les urnes, ça commence en septembre. Donc je pense qu'à un moment donné,
cette exigence républicaine, elle n'est pas incarnée par ce parti. Et la gauche républicaine, plus globalement, fait défaut en France.
Alors, j'aimerais qu'on avance un petit peu sur l'enquête. Et c'est pour ça qu'on vous a fait venir Noémie Schulz. L'information principale à retenir aujourd'hui, c'est que ce matin, l'avocat du policier qui est mis en cause avait requis sa liberté provisoire, demande qui a été refusée. Pourquoi ?
Alors, on n'a pas la motivation précise du refus de cette demande. Ce que l'on sait, c'est que le parquet général avait requis le maintien en détention. Vous savez, cette décision, elle a été prise il y a une semaine par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, qui a donc décidé de placer ce policier en détention provisoire. Alors, il y a plusieurs explications, plusieurs arguments qui peuvent justifier le placement en détention provisoire pour conserver les preuves ou les indices qui sont nécessaires à l'enquête, éviter une pression sur les témoins, éviter la concertation entre des personnes mises en cause. Là, ça pourrait être pour éviter la concertation entre ce policier et son collègue, pour assurer aussi protéger la personne mise en examen, puisque ce policier, il est aussi en danger, hein. Son nom, son adresse ont circulé, donc quelque part, si on le remet dehors, eh bien, il prend aussi un risque. Et puis, il y a en matière criminelle le fait de mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public provoqués par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a commis. En l'espèce, quand on voit l'ampleur des émeutes qui ont eu lieu dans la foulée de la mort de Naël, on imagine assez facilement que si aujourd'hui la justice avait décidé de remettre ce policier en liberté, alors sous contrôle judiciaire, il n'aurait pas s'agit de dire vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, ça n'aurait pas été accepté,
ça aurait remis une pièce
pas
dans la
été compris, ouais. Et les émeutes auraient pu repartir. Or, les juges, sans faire de la politique, sans qu'on dise qu'ils ont reçu des consignes politiques, ils prennent en compte.
Ils aussi tiennent compte le climat.
Le risque de troubles à l'ordre public, oui, fait partie des raisons qui peuvent amener à placer quelqu'un en détention provisoire. Même si cet argument, il est inacceptable pour l'avocat du policier qu'on va peut-être entendre.
Absolument.
Pour qui, en fait, ce n'est pas la justice qui décide, mais en fait, quelque part, les émeutiers.
On l'écoute, l'avocat.
C'est choquant que pour éteindre les feux, pour calmer, pour apaiser des gens qui ont décidé d'exprimer une colère ou de faire leur course, on place quelqu'un en détention, entre quatre murs, loin de sa famille, loin de ses attaches familiales, de ses gamins. Moi, ça me choque beaucoup. Si on le laisse sortir et si on annonce publiquement, puisque vous êtes là, sa sortie de prison, ça va reflamber. Et c'est exclusivement ça, c'est-à-dire que c'est la rue qui tient la justice aujourd'hui. Et ça n'est pas raisonnable.
Joseph Touvenel, il aurait été étonnant qu'elle lui ait été accordée dans ce contexte.
D'abord, c'est toujours difficile de se positionner sur un dossier quand on n'a pas le dossier. Donc on l'a par les éléments extérieurs. Ensuite, quand même vraisemblablement, on voit qu'effectivement, il y a ce risque d'embrasement. Alors on comprend que politiquement, je ne veux pas prendre le risque. Enfin, ça montre quand même l'état du pays, puisque Elisabeth Borne nous a dit qu'ils n'étaient pas plus de 7000. Pas plus de 7000 émeutiers, et ça part dans tous les sens et partout. Et si c'est la véritable raison, ça veut dire qu'on est dans l'incapacité de protéger, ouais, la vie de quelqu'un, de la vie d'un policier, alors qu'elle peut être failli, ou peut-être pas, j'en sais rien. Ça montre l'état du pays où nous en sommes.
C'est pas qu'on est dans la capacité de protéger sa vie, c'est qu'on prend le risque qu'il y a à nouveau.
Oui,
non, les émeutes, c'est pas juste pour attenter à la vie du policier.
Et vous l'avez dit vous-même, il y a une minute et demie.
Ça peut faire partie.
Un des risques, c'est que sa vie puisse être en danger. Mais si on se pose cette question-là,
c'est la raison pour laquelle ça peut être un des risques.
C'est dans les raisons.
Et là, effectivement, d'accord, si c'était la seule raison, effectivement,
j'ai pas dit que c'était la seule. J'ai dit que c'était la raison. Et quand on pose cette raison-là,
je pense que la vraie raison, c'est en effet le trouble à l'ordre public.
Si on met cette raison-là sur la table, c'est que elle n'est pas invraisemblable, ce qui quand même me navre.
C'est parce que moi, je me suis contentée de dégrainer les conditions.
On imagine que sa protection serait quand même assurée si la décision avait été autre. Enfin, on ose espérer quand même. Charles Dizenstuhl, votre réaction
Bon, moi, c'est compliqué de réagir parce que je ne suis ni juge, ni procureur.
Oui, mais on peut tous dire ça et on le dit
je
tous.
Je suis député. Enfin, vous avez un avis il y a une séparation des pouvoirs, donc moi, je n'ai pas à me prononcer sur une affaire judiciaire en cours. La seule chose que je voudrais dire...
Alors, je vous posais la question à l'inverse. Vous auriez été surpris qu'on le libère ?
Vous, sur toutes les affaires judiciaires, je ne me prononce pas au fond, quels que soient les types de sujets. Ce qui est important, c'est que cette enquête, elle se fasse... Elle soit basée sur des faits objectifs. Voilà, il faut que la justice puisse travailler de façon dépassionnée. Et puis, il faut que l'enquête puisse clairement établir ce qui s'est passé.
D'ailleurs, on a avancé sur l'audio déjà. Mais enfin, on peut en parler à un autre moment si vous avez
pas
le temps.
En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas parce que ce policier aujourd'hui reste incarcéré qu'il va forcément rester incarcéré pendant toute la durée de l'instruction et jusqu'à son procès.
Ça peut encore changer, voilà. Bien sûr, évoluer.
Et son avocat, d'ailleurs, ce matin nous a dit qu'il allait dès demain ou en tout cas dans les prochains jours déposer une demande de mise en liberté. Il peut en déposer autant qu'il veut. Et donc, il a dit, j'en ferai une par semaine si besoin, jusqu'à ce que la justice retrouve ses esprits. Il est sûr qu'il va falloir sans doute laisser passer un petit peu de temps, que les choses s'apaisent. Mais on peut imaginer que dans quelques mois, si la situation est plus calme, ce policier sorte de prison, soit placé sous contrôle judiciaire, avec encore une fois des garanties pour s'assurer qu'il ne se concerte pas avec l'autre policier, qu'il ne peut pas quitter le territoire, tout ça, mais c'est possible.
Et puis, dans le cadre donc de la réponse pénale à apporter à tout ce qui s'est passé, on a relevé cette décision. La justice a annulé, pour erreur de procédure, les mises en examen de 9 personnes qui, elles, étaient soupçonnées d'avoir incendié la mairie de Mont-Saint-Barœul, c'est dans le Nord, au moment des violences. Alors, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ?
Oui, on sait ce qui s'est passé. C'est effectivement un document qui n'a pas été signé correctement par le parquet. Je vais vous dire exactement. Il manquait la signature du parquet dans cette procédure.
En bas du document, oui.
Et donc, à partir de là, la procédure tombe. Vous savez, c'est la règle, on peut s'en désoler. Et en même temps, c'est ce qui fait que ce sont les règles de droit qui garantit à tout un chacun le strict respect, le droit de la défense.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous nous disiez tout à l'heure à la rédaction, quand on se parlait, ça arrive peut-être plus souvent qu'on ne le pense. Là, ce qui est dommageable, c'est que dans ce contexte, ça ne devrait pas arriver, quoi.
Ça arrive parfois. Il arrive qu'une personne aussi soit remise en liberté parce qu'elle a fait une demande de mise en liberté et qu'elle n'a pas reçu de réponse et qu'il y a un délai à l'issue duquel, si vous n'avez pas reçu de réponse, ça veut dire que cette demande est acceptée. Là, ce qu'on peut comprendre, c'est une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif qui ouvre la procédure devant le juge d'instruction. En fait, il y avait vocation à ouvrir une enquête devant le juge d'instruction parce que si on parle d'un incendie, donc c'est des faits qui demandent un peu d'investigation et il manque une signature. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi ? Ça peut vouloir dire que face au nombre d'affaires, de personnes interpellées, de gardes à vue, de documents à signer, effectivement, à un moment, un magistrat a oublié de signer un document et ça a ses conséquences. Alors attention, effectivement, là, les personnes qui avaient été placées en garde à vue, leur garde à vue va tomber, les mises en examen vont tomber.
Ça veut pas dire que c'est fini ?
Non, ça veut pas dire que c'est fini. C'est juste qu'il va falloir reprendre l'enquête. Relancer la procédure, on perd du temps. Parfois, on prend le risque que les personnes s'évadent, disparaissent dans la nature. Mais encore une fois, vous demandez à n'importe quel avocat, il vous dira, mais heureusement qu'on s'assure que les règles de procédure sont absolument respectées.
Karim, c'est incroyable, non ?
Ce qu'on vient d'entendre, c'est que la règle de droit s'impose à tous. Ça, c'est une évidence. Après, on peut regretter effectivement qu'il y ait cette erreur. Parce que
on ne vit pas n'importe quel moment dans l'histoire du pays.
Ils ont volé une boîte de petits pois en passant devant un supermarché qui a été dévalisé. Ils attaquent une mairie. Donc, ce qui nous a quand même le plus choqué à tous, en se souvenant quand même de ce qui est arrivé à la mairesse de Pontoise, qui a été attaquée dans sa voiture, au maire de L'Aigle-et-Rose avec son épouse et ses enfants. Donc, évidemment que c'est pas, je dirais, anodin de s'attaquer à la maison du peuple à l'échelle de notre collectivité. Donc non, c'est fort regrettable et fort dommageable, effectivement, que dans ce cadre-là, le vice de procédure ne permette pas de les poursuivre immédiatement. J'espère que quand même on va pouvoir rattraper par un biais ou un autre l'enquête et qu'une nouvelle procédure pourra être réengagée. Je l'espère.
Charles Zenstuhl, député de la République, on est la 5e ou 6e puissance mondiale. Bon, chaque 10 ans, on perd un rang quand même, enfin une place. C'est quand même incroyable qu'un truc comme ça se passe dans le système judiciaire français.
C'est assez incroyable.
Il y a des choses à revoir quand même, non ?
Oui, mais enfin, la justice.
Je
ne sais pas s'il faut extrapoler de ce petit cas l'état de la justice.
Non, mais le monde qui regarde doit rigoler.
Il y a tous les jours des policiers aussi.
C'est vraiment très, très regrettable. Comme l'a dit madame, ça va pouvoir être rattrapé.
Ouais.
Je pense que ça doit aussi arriver dans les autres grandes puissances mondiales. Voilà, ne jetons pas non plus de sacs de cendres sans cesse dessus. Mais c'est vrai que la justice, elle manque structurellement de moyens. C'est 30 ans d'abandon de la justice. Nous, on essaye de colmater les brèches. D'ailleurs, là, au moment où on se parle, l'Assemblée nationale est en train d'examiner une loi d'orientation du ministère de la Justice, où on remet beaucoup de moyens, recrutement de
L'année dernière, on nous a rebattu les oreilles des 8% supplémentaires, budget jamais voté.
Nous, on le fait, contrairement au gouvernement précédent. Nous, on le fait. On
le dit, c'est le rattrapage. OK. Alors, on va avancer un petit peu. Merci beaucoup, Noémie, d'être passée parmi nous. On n'oublie pas les commerçants, parce que lors des les émeutes, ils étaient encore une fois en première ligne, comme s'ils n'avaient pas déjà assez subi pour certains les passages multiples des manifestations qui dégénèrent. Entre les destructions partielles ou totales, les conséquences, les retards de livraison aussi, on va voir que ça a un gros impact et sur le chiffre d'affaires et sur leur morale. Et c'est peut-être qu'il y a de plus grave. Maureen Vidal.
Vitrines éclatées, produits dérobés, magasins retournés. Les commerçants ont été les premiers à subir directement les émeutes de la semaine dernière. Face à ces violences et à la destruction de leurs biens, les réactions sont vives. Certains restent pourtant déterminés à continuer, comme Serge Juniet, gérant d'une boutique de mode à Annemasse.
Je me suis protégé avec les moyens du bord. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça reste assez rudimentaire. On n'allait pas laisser trop longtemps le goût de la victoire sous les yeux de ceux qui avaient perpétré ces actes, et que la première des réponses à donner était que la vie continue.
D'autres commerçants sont eux traumatisés. C'est le cas de Stéphanie Chen, gérante de boutique de maroquinerie.
Je suis choquée, on est dans une impasse, aujourd'hui on ne peut pas ouvrir. Mes employés sont au chômage partiel. On ne peut rien faire parce que tout est cassé, il n'y a plus rien, il n'y a pas de stock.
Le gouvernement a annoncé l'abaissement des franchises pour les commerces indépendants les plus touchés. La période des soldes sera prolongée jusqu'au 1er août afin de pallier les manques à gagner subis. Mais les commerçants espèrent une indemnisation maximale en plus de ces annonces.
Il faut tout faire pour que ce ne soit pas la crise de trop. C'est pour ça que nous appelons vraiment à une indemnisation la plus complète, de par les assurances, mais si besoin, avec des fonds d'indemnisation ciblés.
Dans certaines régions, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur et la métropole Aix-Marseille, un fonds de soutien de près de 12 millions d'euros a été débloqué afin d'aider les commerces pillés.
Bonjour Éric de Rydmaten. Alors entre les aides multiples et variées, évidemment ça n'empêchera pas le dépôt de bilan pour certains, parce que moi la question que je me suis aussi posée ces derniers jours, c'est à quel degré sont-ils assurés? C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont peut-être pris des assurances minimales qui ne les protègent pas de tout.
C'est vrai, vous avez une assurance qui couvrira les vitrines cassées, ça il n'y a pas de problème. En revanche, la perte d'exploitation, c'est-à-dire vous êtes obligé de fermer votre magasin, donc plus personne ne peut venir pendant la période des soldes en plus, là ce sont des pertes sèches. Et si vous regardez les chiffres de la Fédération de l'assurance, vous n'avez que 55% des commerçants qui sont assurés pour les pertes d'exploitation. 55%. Donc les autres, point d'interrogation. Alors c'est pour ça que vous avez une ville comme Lille, par exemple, dans le Nord, qui accompagne les commerçants, qui va les aider en versant des aides. Vous avez le Grand Est aussi, 10 millions d'euros qui vont être débloqués. Vous avez la ville de Marseille, on en parlait, hein, 10 000 euros pour les commerces qui en ont vraiment besoin. Donc vous voyez, voilà, ce sont des aides ponctuelles, mais la promesse de venir en aide au niveau national, de refaire une sorte de quoi qu'il en coûte, pour l'instant, il reste encore flou. La seule chose qui est faite, c'est qu'il y a des guichets qui ont été ouverts à la demande des pouvoirs publics, dans les chambres de commerce, dans les chambres d'artisanat. Et là, eh bien, on va essayer d'aider au cas par cas. Ah, vous avez perdu telle activité. Donc, mais c'est encore un peu, si vous voulez, comme à l'époque du Covid. Il faudra des mois pour obtenir vraiment des indemnisations. La seule chose, c'est l'assurance. L'assurance, est-ce qu'elle va jouer le jeu? Oui, il y en a certaines. J'entendais.
Par exemple, surtout qu'il faut que ça aille vite, en fait.
Oui, la banque assurance, la BPCE, par exemple, je la cite comme ça, elle a dit oui, on prendra en charge. mais d'autres, point d'interrogation, des grands groupes, je tairai le nom, ne se sont pas engagés à prendre en charge l'intégralité des pertes d'exploitation, contrairement à ce que m'a dit personnellement Bruno Le Maire mardi lorsqu'il était à Arpajon.
Regardons combien ils sont, regardons à nouveau combien ils sont touchés à l'échelle nationale. Voilà, c'est une estimation, bien sûr, peut-être que tous ne se sont pas déclarés non plus. 200 commerces alimentaires, 436 bureaux de tabac, il y a eu razzia sur les bureaux de tabac, visiblement. 60 magasins de sport, 10 vendeurs de vélos, 12 grandes surfaces de bricolage et 20 salles de sport. Bon, on peut se demander pourquoi des salles de sport, enfin bon, bref. Charles Sissenstuhl, on peut quand même faire quelque chose. Si on l'a fait à l'échelle nationale pour des restaurateurs qui fermaient les uns après les autres par obligation pendant la période Covid, là, on est quand même capable de mettre la main à la poche. Quoi.
Enfin, on le fait.
Oui, non, mais
dire que
pour l'instant, à part les reports de charges, moi, je n'ai pas entendu une aide particulière.
Enfin, le ministre de l'économie a réuni très rapidement les acteurs, notamment des assurances. Les délais de déclaration des sinistres vont être passés de 5 jours à 30 jours. Il est demandé aux assurances d'indemniser le plus rapidement possible, de réduire les franchises. Donc déjà, ça, ce sont des points concrets.
Et pour ceux qui sont assurés ou pas bien.
Par ailleurs, il y aura des reports de charges qui vont être accordés. Et ensuite, au cas par cas, pour les commerces qui sont vraiment le plus touchés, voilà, c'est-à-dire qui ont subi un préjudice économique majeur, il pourra y avoir des annulations de charges. Et comme ça a été dit aussi, certaines collectivités locales vont mettre en place des fonds d'indemnisation. Enfin, ce que font les collectivités locales, je rappelle, enfin, en sens global, c'est la même poche que l'argent de l'État. Hein. C'est l'argent du contribuable. Donc, la puissance publique, l'État et les collectivités et certaines collectivités locales réagissent de façon très rapide.
Bon, on imagine quand même que ce sera fait. Joseph Touvenel, ce serait étonnant qu'on ne vienne pas au secours de ces commerces-là.
Évidemment, il faut venir. Et puis c'est le rôle de l'État, puisque l'État a failli. Mais pour les assureurs, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la clause que beaucoup ont en bas, tout petit, en cas d'émeute, ils ne sont pas couverts. Et donc là, il va peut-être falloir regarder, parce que personne n'aurait pu penser, prévoir.
On peut imaginer que ce soit un cas de force majeure.
Je remercie cette commerçante, Madame Cheng, qui pense aux salariés, parce qu'il y a des salariés qui vont se trouver aussi économiquement avec des revenus qui baissent. Il y en a, moi j'en ai rencontré, qui ne veulent plus aller travailler par peur, notamment des jeunes filles, qui ont la crainte maintenant d'aller travailler dans les centres commerciaux. Alors ça va passer, mais ça aussi, ça va avoir une influence sur notre vie économique.
Écoutons aussi l'influence que ça va avoir sur leur santé mentale. C'est Olivia Grégoire qui en parlait il y a quelques instants.
Un choc psychologique, une appréhension, une inquiétude, une lassitude, parfois même une sidération d'un certain nombre d'acteurs, qui entraîne aussi des dégâts psychologiques auxquels je souhaite pouvoir répondre en accompagnant les acteurs qui ont été touchés ou qui sont bouleversés par ce qui s'est passé. L'État mettra donc en place un soutien psychologique pour les acteurs du tourisme, mais aussi les commerçants qui auraient été le plus touchés.
Ça paraît bien normal, mais on peut aussi parler, Karim Zeribi, de l'impact touristique qui est avéré. À Paris, moins 25%. 25% de réservations en moins directement dans les heures qui ont suivi, sans compter, bon évidemment, on ne va pas le redire à chaque fois, mais les JO qui se profilent, il va y avoir des annulations en série. C'est terrible ce qui nous arrive.
C'est évident, il y a un impact direct pour les commerçants eux-mêmes, c'est parfois des vies qui sont ravagées. Hein. Donc les commerçants, ce n'est pas les personnes les plus nanties de notre pays, faut-il le rappeler, et c'est les personnes dont on a besoin. Notre tissu économique est composé en majorité de TPE, donc c'est ce qui crée le lien social dans nos villes, dans nos quartiers, qui crée des emplois de proximité, qui donne la chance à des jeunes, donc aux étudiants. Donc c'est honteux de s'être attaqué à ces commerces, et c'est honteux de s'être attaqué à toutes les infrastructures, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc il y a eu des cagnottes polémiques. Pourquoi on ne fait pas une cagnotte nationale où tous les Français pourraient apporter leur contribution pour redistribuer ça donc à ces commerces? On doit tous faire preuve de solidarité donc dans ces moments-là. Il y a les assurances qui sont assurées, il y a l'État qui contribue avec les allègements de charges ou les décalages, il y a les collectivités, mais elles aussi ont été touchées. Les écoles, les centres de loisirs, les mairies.
Elles aussi, c'est vrai qu'elles vont payer la facture.
Un déficit. Et nous autres, si on lançait une cagnotte nationale, je serais le premier à contribuer pour aider ces commerçants. Nous en avons besoin dans nos commerces. De Allez, proximité.
Affaire à suivre. Merci beaucoup, Éric Dorit-Mathen. On vous retrouve demain, peut-être, pour la suite de l'analyse. On va parler dans un instant des mortiers, les mortiers qui ont proliféré. 1,5 tonne 500 000 mortiers ont été retrouvés. C'est quand même assez incroyable, parce qu'il y a une loi qui avait été passée, on pourra en reparler, sur l'interdiction de vente, y compris sur les sites internet. Et force est de constater que ça n'a pas trop fonctionné. À tout à l'heure. Nous serons de retour juste après le rappel des principaux titres de l'actualité en compagnie à nouveau de Somaïa Labidi.
Mairie incendiée à Mont-Saint-Barœul, 9 mises en examen annulées, des annulations pour une erreur de procédure. Une nouvelle action a aussitôt été relancée par le parquet de Lille. Pour rappel, dans la nuit du 28 au 29 juin, la mairie et des bâtiments municipaux alentours ont été attaqués et incendiés dans le cadre des émeutes. Les suites de l'affaire du fonds Marianne, le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco, a conclu la commission d'enquête du Sénat. Pour le rapporteur, certaines des associations ayant bénéficié du fonds ont effectué un vrai travail, je cite, mais ce n'est pas le cas des deux principales d'entre elles. Et puis Tony Vérel, condamné à 18 mois de prison ferme. Cette peine pourra toutefois être aménagée et devrait lui éviter la prison. L'ancien attaquant des Bleus était jugé avec trois de ses frères pour avoir tiré sur les vigiles d'une boîte de nuit en 2011. Incarcéré pendant 5 mois au début de l'instruction, l'ancien international a toujours clamé son innocence, ainsi que celle de ses frères.
Merci beaucoup. 1,5 tonne de mortier saisi, mais combien déjà utilisés, ça nous donne un peu une idée de l'ampleur de leur utilisation. Regardez ce reportage de Corentin Briot et on en parle avec un représentant policier.
400 kilos à Paris mardi soir. 54 000 engins pyrotechniques à Besançon. Les saisies de mortiers d'artifice par la police s'accumulent depuis le début des émeutes. Rien qu'en région parisienne, c'est 1,5 tonne d'artifice qui a été saisie par les forces de l'ordre en une semaine. Un chiffre impressionnant, mais sûrement très en dessous de ce qui circule réellement dans la nature.
La saisie d'une tonne 5, c'est un peu comme les stupéfiants. On parle de ce qui est saisi, mais pas de ce qui est rentré. C'est-à-dire que là, la masse de mortier qui est rentrée depuis la fin des émeutes, parce que c'est à partir de là où les commandes ont été faites, ça doit être quelque chose qu'on peut multiplier par 3 ou par 4 facilement.
Les forces de l'ordre craignent donc de nouveaux dégâts à cause de ces engins.
Moi, j'ai peur pour le 14 juillet, parce que c'est là aussi où ils l'utilisent à tort et à travers, et pas que sur les émeutes. Et je pense qu'on risque d'avoir un regain de violence avec ces mortiers d'artifice.
Illégal à l'achat en France, les saisies douanières de mortiers d'artifice et autres matériels pyrotechniques ont atteint en 2022 1578 kilos.
Bonjour Edda Bellage, merci de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'unité SGP pour l'Île-de-France. On se souvient quand même qu'une loi avait été passée, enfin il me semble, pour en restreindre l'usage. Visiblement, ça ne fonctionne pas très bien.
Il y a des choses qui ont été faites par rapport à ça. Aujourd'hui, il est difficile pour la personne lambda de s'approvisionner en artifice. Maintenant, en ce qui concerne le marché parallèle, on va dire, entre guillemets, dans les quartiers, par exemple, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez les réseaux sociaux. On a vu même une publicité circuler pendant les émeutes avec où on vous propose du 380 coups à 90 euros, du 8 coups de mortier à 90 euros. Et surtout, la problématique à laquelle on doit faire face, c'est que certains de pays européens, les mortiers sont toujours autorisés à la vente. Donc du fait que les frontières sont ouvertes, il n'est pas très difficile de s'en procurer.
Donc on est d'accord que ça vient de pays limitrophes, et là, c'est le rôle des douanes, les douanes qui vont jouer un rôle prépondérant.
Alors ça peut venir, si je dis bien, ça peut venir des pays limitrophes, mais ça vient aussi, et surtout beaucoup, de la vente en ligne. Et ça, c'est difficile tant qu'il n'y aura pas une prohibition, et difficilement contrôlable pour la vente en ligne, ça va être compliqué pour nous, forces de l'ordre, de faire face à ces attaques.
Oui, parce qu'effectivement, quand on reçoit un colis chez soi, il y a des contrôles aléatoires. Mais enfin bon, j'imagine qu'avant de tomber sur le bon lot, il faut se lever tôt. Regardons ensemble, si vous voulez bien, quand même, ce qu'on parlait de saisie. Ce tweet de la préfecture des Hauts-de-France, qui s'enorgueillit d'avoir pu saisir grâce à la coopération avec la Belgique, on l'imagine. Voilà, on voit un petit peu à quoi ça ressemble hein, quand c'est pas allumé, quand c'est pas ouvert. Joseph Touvenel, on va rester bien sûr avec Reda Bellage. C'est vrai qu'il y a cet angle mort permanent maintenant que constitue Internet. Enfin, je veux dire, c'est impossible de tout réguler.
C'est impossible de tout réguler. En même temps, on voit que les moyens des douanes sont insuffisants, puisque la masse de ce qui arrive... Vous savez, moi, ce qui me frappe, ça dépasse peut-être les feux d'artifice, c'est de voir tout ce qui arrive, notamment de Chine par Amsterdam, avec un contrôle qui est quasiment nul. Et donc, du coup, vous voyez, les feux d'artifice arrivent avec d'autres produits, arrivent chez nous. On a un problème de frontières européennes et de frontières françaises, mais si les frontières européennes déjà étaient un peu plus surveillées, ce qui arrive de Chine, on saurait d'où ça vient. C'est vraiment un problème de moyens. Hein. Les douaniers, ils peuvent pas être 24 heures sur 24 à tout ouvrir. Il faut aussi voir quels sont les réseaux de distribution, parce qu'il y a des réseaux qui font beaucoup d'argent.
À partir du moment où vous avez en deux clics la possibilité de le recevoir chez vous, tranquille, pépère, dans votre canapé, c'est très difficile à contrôler, Karim.
Mais nous avons fait l'Union européenne, pourquoi ? On est incapable de se mettre d'accord sur des choses qui sont essentielles en matière de sécurité, là, en l'occurrence. Parce que je pense que ce que nous vivons là avec le mortier, d'autres pays européens peuvent être frappés demain par des manifestations violentes, des émeutes. Mais on a fait l'Union européenne, pourquoi, si on n'a pas de politique commune sur des choses qui peuvent apparaître essentielles ? Premier axe. Deuxième axe, on ne peut pas interdire la vente en ligne de mortiers pour la délivrer en magasin à des professionnels ou à des particuliers avec une présentation de la pièce d'identité photocopiée par le commerçant. Donc on pourrait mettre un peu plus de rigueur, là encore une fois, pour éviter qu'il y ait ce trafic à la fois avec les pays limitrophes, à la fois sur la vente en ligne et à la fois dans l'achat direct. Je veux dire, il faut qu'on... On a déjà commencé, le gouvernement a déjà limité les achats de ce type de...
Allons au bout de la logique.
Il faut aller au bout. Ouais. Faut aller au bout.
Charles Zitgenstuhl, le législateur que vous êtes, il lui répond quoi ?
Le législateur français, en fait, il a déjà fait beaucoup de choses. Hein. Il y a notamment la loi sécurité globale de 2021 qui a restreint l'usage, la vente, qui considère aussi que son utilisation à ces mortiers, que leur utilisation à ces mortiers peut être considérée comme l'usage d'une arme par destination, parce que c'est
oui,
un
donc
bien
létale,
à ouais. double usage en réalité. On voit qu'il y a bien entendu un sujet de moyens pour les forces de l'ordre et les douanes, c'est-à-dire de toujours être à la pointe de la technologie, parce que comme monsieur l'expliquait de la police, et ben en fait on voit que maintenant ce sont notamment des réseaux sociaux qui sont utilisés, donc il faut sans cesse pouvoir suivre ça. Quant à la remarque sur l'Union européenne, moi je suis d'accord, mais là encore il faut aussi que nous-mêmes on ait un discours cohérent en France. La sécurité n'est pas une compétence de l'Union européenne.
La sécurité, là, c'est du commerce.
Ouais, alors ça dépend comment on le voit. Si c'est du commerce
comment
ou de la sécurité.
Le commerce,
mais je considère qu'on est plus sur un sujet de sécurité. La sécurité, c'est la compétence des États membres. Voilà.
Reda Bellage.
Plus de coordination. Sur...
Reda Bellage, je crois que vous l'avez à demi-mot évoqué. Il y a de réelles inquiétudes là au moment des célébrations du 14 juillet, d'un peu de confusion qui pourrait se rajouter avec l'utilisation qui généralement est plus généralisée de ce type d'appareil.
Oui, alors, de manière générale, chaque année, que ce soit à la Saint-Sylvestre ou la nuit du 13-14 juillet, on renforce les effectifs de nuit par les effectifs de jour et on procède à des décalages. Mais je pense que là, on a eu des saisies, on a eu des grosses saisies, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le reportage, 1,5 tonne sur l'île de France. On s'attend un peu, c'est malheureux à dire, mais au deuxième round. Si on peut s'attendre à un deuxième round avec certains délinquants. Sauf que là, on risque d'avoir, comme ça a été le cas cette semaine, au lieu d'avoir malheureusement les délinquants habitués, on peut avoir une généralisation. Donc je pense qu'il va falloir être très, 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 très... Ça va être délicat, il va falloir être très attentif.
Dernière question sur le ratio, là, on l'entendait dans le reportage. Vous êtes d'accord pour dire qu'en gros, pour 1,5 tonne saisie, ça veut dire qu'il y en a 4-5 réellement en circulation ?
Je pense que, alors, je n'ai pas les chiffres malheureusement, mais si c'est comme déjà on a du mal à arrêter de dire le cannabis à avoir un élément de quantité, non, je pense que ça doit être largement plus, hein, je ne vais pas vous cacher, surtout avec ce qui s'est passé, comme on a dit dans plusieurs analyses d'ailleurs sur vos plateaux, il y a un entraînement en fait via les réseaux sociaux où là il y a vraiment un appel pour que tout le monde participe à leur manière, je dis bien à leur manière, à peut-être une continuité d'une expression de colère via les mortiers.
Oui, bah, j'imagine que vous allez passer une nuit difficile, la nuit du 13 au 14. Bon courage à vous et vos hommes. Merci encore d'avoir répondu à nos questions en direct. Petite interruption et puis on revient. Je sais, vous avez encore...
Non, j'allais dire, avec ce qu'ils ont dû subir et ce à quoi ils ont fait face, je veux dire, ils se sont bien tenus, les policiers. parce que c'est compliqué.
Absolument, merci. Et on revient après cette petite pause pour parler de Robert Ménard qui s'oppose à un mariage qu'il considère comme blanc. A tout à l'heure. Il nous reste quelques instants pour évoquer cette question soulevée au fond par Robert Ménard, qui était notre invité politique de la matinée. C'est la question des mariages des personnes sous OQTF. Elle s'est posée récemment à lui. Écoutez ce qu'il en disait à Laurence Ferrari.
Chaque fois qu'on a un soupçon, pas moi, tous les maires, un soupçon de mariage blanc, vous savez, on fait remplir un questionnaire au celui qui sera le mari et la femme, et on l'amène au procureur, au substitut du procureur. Je l'ai fait comme d'habitude. Et là, il me dit non, il n'y a pas assez de preuves. Je ne me prononce pas sur ça.
Pour que ce soit un mariage blanc.
Pour que ce soit un mariage blanc, il y a des doutes, donc vous mariez. Je lui dis, et l'OQTF, ah, il me dit... Les droits de l'homme font que le mariage, le respect de votre vie privée, le droit de vous marier...
Convention européenne des droits de l'homme,
vous pouvez pas
vous oblige à le marier.
Attendez.
Donc vous allez le marier ?
Mais bien sûr que non. Mais enfin, attendez, à un moment donné, madame, il y a le droit, il y a les droits de l'homme, en plus c'est ma vie, les droits de l'homme, alors tu vas pas me faire un coup là-dessus. Mais enfin, attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière. Ce garçon est en situation irrégulière. On veut, si on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier.
Bon, Karim Zeribi, dans son cas, c'est le casier judiciaire qui, en plus, vraiment interroge. Mais surtout, ce qu'on sent à travers la décision de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est qu'il y a toujours cette éminente question de la souveraineté sur tous ces sujets. Ça revient à peu près sur chaque thème maintenant.
Et pas que, il y a aussi cette forme de dichotomie entre ce que le droit dit et ce que l'on peut ressentir comme étant une anomalie du droit. Parce que moi, très franchement, je suis choqué de ce que le droit qu'impose là.
Vous auriez fait comme lui ? Maire, vous seriez un peu objecteur de conscience sur ça ?
Mon étonnement, mon agacement et mon incompréhension, c'est assez clair auprès du préfet ou du procureur de la République. Parce que, à la limite, allez, soyons fous, il est interdit de territoire et en plus, il a un casier. Il veut se marier avec une ressortissante française et qu'il aille se marier dans son pays d'origine.
Oui.
S'il a vraiment l'amour fou, alors, veut dire qu'ils prennent deux billets d'avion et qu'ils aillent se marier dans son pays.
Regardons les conditions, parce qu'en gros, l'OQTF est impossible s'il est marié depuis plus de 3 ans à une Française. Bon, en l'espèce, cet individu, même s'il se mariait, pendant 3 ans, il serait expulsable. C'est ce que je comprends, moi, Joseph Touvenel ou Charles Zizadi.
Oui, c'est le cas. Donc, c'est-à-dire le fait d'être marié n'annule pas l'OQTF, contrairement à ce qu'on pourrait
le croire. Le cas n'est pas scellé.
C'est-à-dire qu'il peut se marier... Et il pourra être expulsé.
Mais sur la frilosité d'un élu à prononcer le mariage, parce que c'est quand même quelque chose d'assez solennel, oui. C'est quelque chose qui vous engage aussi à titre personnel. Normalement, c'est le summum, disent beaucoup d'élus, leur premier mariage, la première célébration de mariage, c'est quelque chose qui les a marqués.
Je confirme, moi j'étais adjoint au maire, fait des mariages, c'était les moments que je préférais.
Donc on n'a pas envie de cautionner ça. On ne peut pas cautionner ce genre de mariage quand on a un doute.
Non, mais la situation est aberrante.
C'est clair, un mariage, c'est sous le buste de Marianne. Quelqu'un qui a l'obligation de quitter le territoire, on peut penser légitimement qu'il n'a pas à être marié sous le buste de Marianne. Ça vient d'être dit, il est fou amoureux, il se marie dans son pays d'origine.
Voilà.
Et qui est défavorablement connu des services de police. Oui, alors, donc ça, c'est la cerise sur le gâteau.
Alors écoutez, il y en a un qui n'a pas eu le choix, ceci dit. C'est Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et il explique pourquoi.
À l'époque, puisque la République est tellement généreuse qu'elle lui a depuis donné un visa, mais qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire par reconduite à la frontière, qui n'a évidemment jamais été exécutée, comme 95% de toutes les OQTF. Nous avons été saisis d'abord par la préfecture de Saône-et-Loire de la difficulté de ce dossier, la suspicion d'un mariage blanc, puisque la demande de mariage avait été déposée 2 jours avant une demande de visa. Au moins, c'était assez clair. Donc on a auditionné, comme j'imagine mon collègue de Béziers l'a fait, comme il l'a dit ce matin. Il est apparu des incohérences entre les deux déclarations. On auditionne séparément les deux prétendants au mariage, et on voit bien que là, ça ne colle pas, les dates ne collent pas, etc. Et donc j'ai fait savoir au procureur que je le saisissais de cette demande pour que lui-même puisse juger ce qu'il en pensait.
Bon, on ne saura pas pourquoi, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est toujours nébuleux.
Parce que ça jette trop l'opprobre sur les immigrés en situation régulière. Je suis désolé, mais comme on est dans la, je dirais, une forme de confusion permanente dans le débat public, moi je suis intransigeant avec les OQTF. Les OQTF, ils n'ont pas de statut administratif, donc ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas le droit de siéger dans notre pays.
Eh ben, allez le dire à l'exécutif et à la majorité.
Et c'est du respect pour ceux qui respectent nos lois. C'est-à-dire les immigrés en situation régulière, qui plus est, qui travaillent, qui sont utiles au pays. Et je veux qu'on distingue les deux.
D'accord, mais allez dire aussi aux pays qui sont concernés.
Mais allez dire, c'est à nous de trouver les voies de la coopération et du rapport de force. Excusez-moi, la politique, c'est quoi ? Je veux dire, c'est quoi la politique ?
Donc pour l'instant, le rapport de force, il est plutôt à l'avantage des pays de l'autre côté de la Méditerranée.
À l'avantage. Peut-être qu'on a aussi des responsabilités. Il y a un membre de la diplomatie d'un des pays dont vous parlez qui m'a dit pour accompagner les ressortissants lorsqu'on vous donne des laissez-passer un par un. Vous ne les mettez pas dans des avions et autres, parce que depuis Pasqua, vous savez, on n'a plus d'avions qu'on appelait les charters avant. Donc on n'a plus d'avions. On les raccompagne un à un avec deux fonctionnaires de police. C'est hyper chronophage en termes d'accompagnement et autres. Donc je pense qu'il faut qu'on ait aussi une méthodologie pour accompagner des gens qui n'ont rien à faire sur notre sol. Mais encore une fois, dire ça, c'est pas avoir un discours anti-immigré, parce qu'ils ne sont pas en situation régulière. Et moi, je veux distinguer de ceux qui sont en
situation régulière. Alors, il y a peut-être des choses à revoir, notamment
c'est important
sur
de le dire.
Chronophage, les coûts, le coût en durée. Aussi parce qu'il y a les agents qui partent et puis ceux qui reviennent.
Sur les OQTF
ouais.
Oui, bah alors sur les OQTF, on fait mieux, mais ça reste non satisfaisant. Je sais pas. Tant qu'on n'aura pas exécuté, on va dire.
Donc on se fait un,
100%,
on se fait un peu balader par les pays en question.
Impossible. Non, c'est pas vrai, mais ce sont des rapports de force qui sont compliqués. On fait mieux déjà depuis quelques années. C'est une des priorités de Gérald Darmanin, mais il faut certainement que le rapport de force soit encore plus ferme avec certains pays d'origine au sud de l'Amérique.
Pourquoi l'Allemagne y parvient ?
Merci.
Mais c'est pas vrai.
Pourquoi pas nous ?
Allez, on va pas. C'est pas le moment d'enclencher le débat. Je suis désolée. C'est la fin de l'émission. On se retrouve dans un instant pour passer le flambeau à Laurence Ferrari.
T'as vu où ce chiffre ?
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com